France Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Y aura-t-il un pic de naissance l'hiver prochain des bébés conçus pendant le confinement? On le saura sans doute très vite. Certains, vous allez l'entendre, ont déjà de bonnes nouvelles à annoncer. Attestation, s'il vous plaît, requise dans les transports en commun d'Île-de-France. Ce matin, on verra si les contrôles ont commencé. Un pont aérien pour faire venir des travailleurs saisonniers de l'étranger. On ne lésine pas sur la cueillette de l'asperge en Allemagne malgré la fermeture des frontières en Europe. Quid des emplois de saison en France? Pas de perspective réjouissante pour l'instant. On en parlera tout à l'heure avec le secrétaire général de la CFDT.
Laurent Berger au micro d'Inter vers 8h20. Il dialoguera avec vous évidemment. 01 45 24 7000. Passez sinon par l'application de France Inter et les réseaux sociaux.
Dans ce journal aussi, la reprise progressive de l'accueil des enfants handicapés dans les IME et puis le théâtre orphelin d'Avignon cette année. L'occasion de réfléchir sur les dérives du off.
France Inter.
Dépression, addiction, décrochage scolaire, séparation. On a beaucoup parlé des conséquences négatives du confinement. 8 semaines à tourner en rond, dont nous sortons à peine, avec parfois tout de même un heureux événement à annoncer. On va s'agrandir dans cette famille de Seine-et-Marne qu'a rencontré Agera Mohamed.
Un accident en plein confinement dès la première semaine, même selon les calculs de Lola.
Il y a eu un effet confinement. Clairement, la première semaine, c'était chaleur à Ibiza. On a vite trouvé une occupation intéressante.
Ah, ces premiers jours enfermés à la maison, quand le jeune couple pensait que ça n'allait pas durer, que c'était un peu comme des vacances et qu'il fallait en profiter.
C'est sûr que télétravailler l'un en face de l'autre, ça rendait les choses plus faciles pour se rejoindre.
Ouais, c'est ça, en fait, on passait tous les jours H24 ensemble, 7 jours sur 7. C'était la première fois que on avait ce mode de vie.
On va éviter de reproduire ça parce que moi, mon objectif, c'est de ne pas en avoir un troisième.
Oui, c'est sûr. De toute façon, maintenant, il y a le déconfinement. Donc,
retour à la réalité. Et dans cette réalité, un deuxième bébé n'était pas du tout au programme pour le couple déjà parent d'un garçon de 2 ans.
On devait attendre que notre premier grandisse, qu'il aille à l'école, tout ça. Enfin, en fait, c'est tombé comme ça.
Fabrice, lui, se pose encore plus de questions sur ce virus.
On nous parle du Covid, mais on ne sait pas trop si les femmes enceintes, elles peuvent l'avoir, si ça peut se développer sur le bébé. Donc on sait pas trop.
Malgré ces interrogations et la surprise, aucun regret.
Non, pas de regret. De toute façon, on compte mettre en deuxième prénom Covida ou Covido. On s'est dit que ça pourrait être drôle, et puis comme ça, les gens sauraient. Ils se rappelleraient.
Lola et Fabrice ont encore quelques mois pour réfléchir au prénom. Le bébé doit naître juste avant Noël.
Voilà, on les félicite avant de reprendre le collier, comme eux peut-être, pour retourner travailler le lot de centaines de milliers de salariés depuis lundi, avec attestation employeur pour prendre les transports aux heures de pointe à partir de ce matin en Île-de-France. Le but étant de réserver les bus, les métros, les trains à ceux qui travaillent et d'étaler leur prise de service. Bonjour Timo Rosturk.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Vous êtes dans les couloirs du métro Gare de Lyon où les usagers, nous dites-vous, sont disciplinés mais circonspects, c'est ça ?
Oui, sur lequel la ligne 1, direction La Défense, Marina, stagiaire dans un laboratoire pharmaceutique, espère que ces contrôles d'attestation vont pouvoir limiter le nombre de voyageurs.
Je pense que c'est une bonne idée, vu comment il commence à y avoir du monde dans les transports déjà là. Si par contre il y a trop de monde qui a une attestation, ça sera pas utile du coup.
Dans les couloirs de la station, les panneaux publicitaires affichent un message de la préfecture, attestation obligatoire, remplie par l'employeur et précisant l'heure d'arrivée prévue sur son lieu de travail. Mais Angélique n'est pas convaincue, elle prend le premier RER à Melun.
Je pense que c'est à peu près inutile puisque de toute façon, les gens doivent aller travailler de toute façon. Ou alors faut avoir un problème de se lever à 4h du matin pour prendre le train de 5h.
En effet, dans les premiers trains, on ne croise que des gens allant au travail. Alors plutôt que des contrôles d'attestation, Fatima voudrait avoir plus de métro.
Je devrais commencer à 6h. Avant le confinement, le métro il commence à 5h30. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont supprimé celui-là de 5h30. Ça évite un petit peu qu'on sera l'un sur l'autre dans les premières circulations de métro.
Sur la ligne 1 et 14 automatique, la RATP assure que toutes les rames circulent. Mais sur le reste du réseau Florence, il n'y a pour le moment que 75% des trains.
Timo Rosturk dans le métro parisien avec Yves Lehors. C'est pour mesurer l'ampleur du déconfinement à Paris. Voici les chiffres du cabinet Occurrence. Circulation des véhicules en hausse de 134% hier mardi comparé à mardi dernier sur le boulevard du Montparnasse. Et pas loin du double de piétons sur les trottoirs.
Il est 8h05, des frontières fermées, des quatorzaines obligatoires.
L'Europe n'est plus une zone de libre circulation. En ce moment, la question de la réouverture des frontières se pose à Bruxelles. La Commission publiera aujourd'hui ses recommandations. Alors que l'entrée des travailleurs saisonniers est de nouveau autorisée en France, comme en Allemagne, où l'on a tout fait pour permettre leur venue de Roumanie pour la cueillette de l'asperge. Ici, à une cinquantaine de kilomètres de Berlin, dans une des plus grosses exploitations allemandes. Reportage étonnant, signé Marie-Pierre Véraud.
Les champs d'asperges s'étendent à perte de vue. Courbés dès 6 heures du matin, des silhouettes creusent, cueillent, puis recouvrent vite la terre d'une bâche sous un vent glacial. Ces travailleurs roumains et polonais vont sauver la récolte de Jakob Jürgen, car la saison des asperges a débuté juste au moment où l'Europe fermait ses frontières en raison de la pandémie. Alors, il a fallu innover.
Normalement, ils viennent en bus ou en voiture, mais cette année, il a fallu les faire venir en avion. C'est très cher. Nous avons dû affréter des charters. Cela nous a coûté 50 000 euros par avion et par vol. C'était vraiment très cher. Mais sans cela, nous n'aurions pas eu de travailleurs ici.
Il a fallu aussi louer davantage d'appartements. L'année dernière, 6 ouvriers pouvaient loger dans un 45 mètres carrés. Ils ne sont plus que 3 cette année. Règles sanitaires obligent. Jakob doit encore multiplier les rotations des bus, qui ne peuvent plus emmener que 15 ouvriers à chaque fois, contre 50 auparavant. Il a même acheté une flotte de vieilles voitures pour que les Roumains viennent par eux-mêmes jusque dans les champs. Dure année, mais c'est à ce prix que les Allemands ont pu célébrer la fête de l'asperge, un must ici, et que Jakob espère sauver son exploitation. Bilitz, Nicolas Mathias, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
L'Allemagne, où le taux de contamination du virus est de nouveau en baisse, le fameux R0 qui compte le nombre de personnes infectées en moyenne par un malade, il est repassé sous le seuil de 1. Alors où le monde se déconfine progressivement, on se demande tous les matins sur France Inter comment ça se passe ailleurs. En Italie, les cimetières ont rouvert la semaine dernière dans un pays où plus de 30 000 personnes sont mortes du Covid-19 sans être accompagnées le plus souvent. Voici donc le reportage d'Omar Waman dans le plus grand cimetière de Milan, où les familles peuvent désormais se recueillir sur la tombe de leurs proches.
Le cimetière majeur de Milan n'est plus le même. À plusieurs endroits, de nouveaux carrés ont vu le jour. La zone 87 est reconnaissable à ses petites croix blanches, parfaitement alignées, 120, selon Giuseppe, le gardien des lieux.
Dans ce carré sont enterrées des personnes dont les cornes n'ont pas été réclamées par leurs proches. On les a mis momentanément ici, car les hôpitaux étaient pleins.
Si le carré 87 est vide de visiteurs, ce n'est pas le cas du 75. Là où doit se rendre Angela, rencontrée dans la navette du cimetière que les proches des défunts doivent emprunter pour se déplacer dans cette vaste étendue.
Ma tante est morte, ça fait exactement un mois. On ne savait même pas où elle était enterrée. Elle est décédée de ce coronavirus. Elle avait 89 ans.
Vous n'avez pas pu lui dire au revoir ?
Personne n'a pu la voir.
Les familles éplorées se tiennent à distance, souvent masquées. Elena, 26 ans.
On a dû attendre que le cimetière ouvre ses portes pour venir la saluer, ce qu'on n'a pas pu faire avant. Et le plus triste, c'est de savoir qu'elle est partie seule, sans personne autour d'elle.
La fermeture de ce cimetière durant 2 mois a été vécue comme une souffrance, sa réouverture comme un soulagement accompagné de beaucoup de tristesse. Milan, Fabien Gosset, Omar Waman, France Inter.
Et en France aussi, les cimetières ont rouvert lundi. Il y a toujours moins de patients dans les services de réanimation des hôpitaux. 2500 hier pour plus de 7000 au moment du pic de l'épidémie le 8 avril. Le nombre de décès reste important. 348 morts enregistrés ces dernières 24 heures et 2 nouveaux foyers en zone verte au centre hospitalier de Lannion dans les Côtes d'Armor et dans une entreprise de l'agroalimentaire en Vendée. Les enfants de retour à l'école cette semaine qui marque aussi la réouverture des IME, les instituts médico-éducatifs qui accueillent les enfants en situation de handicap. Reprise progressive, là aussi dans des centres où les gestes barrières sont encore plus compliqués à mettre en place que dans les écoles. Hélène Chevalier s'est rendue dans l'IME de l'APAEI de Caen en Normandie en temps normal. Il accueille une centaine d'enfants.
On s'arrête maintenant, Laurine ?
Laurine a de la chance ce matin. Allez, deux éducateurs s'occupent de la faire manger dans un nid émeu encore bien vide. Jérôme et Jean-Baptiste, masque sur le visage, tentent de rassurer la jeune femme, polyhandicapée.
Au niveau repère, ça a été compliqué. En plus, on n'est pas sur notre groupe à nous, parce qu'il faut qu'on désinfecte au fur et à mesure.
Et lorsque l'on a un masque en face de quelqu'un qui prend beaucoup d'informations grâce à notre visage et à nos mimiques, c'est aussi les mettre un peu en difficulté, mais on n'a vraiment pas le choix.
En revanche, impossible de garder ses distances. Jérôme tient par exemple la main de Laurine pendant qu'elle mange.
Il y a des petites choses qu'on ne pourra pas faire, nous, dans nos métiers, surtout avec des enfants polyhandicapés. D'où le fait de se laver les mains toutes les 37 secondes.
Bah, ça y est, c'est reparti, j'ai plus de peau.
Cette semaine, une dizaine d'enfants sont accueillis en priorité car leurs parents reprennent le travail ou qu'il est urgent de les soulager, confie Hélène Moisson, la directrice de l'IME.
Il y a des parents qui sont en situation d'épuisement psychique et physique. Certains ont exprimé vraiment un besoin très important qu'on vienne les relayer sur l'accompagnement de leur enfant.
Pour certains enfants, il est aussi temps, constate Jérôme, l'éducateur, de reprendre les soins interrompus pendant le confinement.
On a vu une en visite médicale ce matin et je sais qu'entre autres, elle fait partie des priorités kinés parce qu'il y a des membres quand on commence à se rétracter.
Un tiers des enfants de l'IME pourront réintégrer l'établissement à partir de la semaine prochaine. Des visites à domicile ou des sorties seront organisées pour les enfants restés à la maison.
Hélène Chevalier, 63 plaintes contre des membres du gouvernement déposées devant la Cour de justice de la République pour dénoncer leur gestion de l'épidémie. Des comptes donnés par le procureur général François Molin. Ces plaintes concernent le plus souvent le Premier ministre, Agnès Buzyn et Olivier Véran, les deux ministres de la Santé qui se sont succédés, ainsi que leurs homologues à la justice, au travail et à l'intérieur. Et tous se retrouveront ce matin pour le premier conseil des ministres post-confinement. Une longue série d'ordonnances sur la table pour mettre en œuvre toutes les mesures annoncées ces derniers jours. Édouard Philippe, dit-on, doit évoquer la reconnaissance de la nation à ceux qui se sont dévoués lors de l'épidémie, alors que les soignants ne voient pas arriver leur prime ni la majoration de leurs heures supplémentaires. La promesse d'Emmanuel Macron date du 25 mars, mais les décrets n'ont toujours pas été publiés, selon le journal Les Échos.
Il est 8h12, Florence, et pour les futurs soignants, des examens particuliers.
Concours allégé en fin de première année des nouvelles études de médecine. Ils sont 3000 à le passer à Toulouse et il s'inquiète, Stéphane Iglesis, de ce que ça va donner.
D'habitude, ce concours très sélectif, 240 places à Toulouse en médecine pour environ 3000 étudiants, se déroule en deux temps. Un premier examen passé à l'issue de 3 mois de cours, puis le concours final après un mois de révision intense. Cette année, les cours se sont arrêtés le 12 mars et reconnaît le doyen de la fac de médecine de Rangueil, les contraintes d'organisation ont pris le pas sur les contraintes pédagogiques. Lisa, prénom d'emprunt, a l'impression de jouer son avenir à la roulette russe.
On a une épreuve qui est habituellement répartie sur plusieurs jours et là, on va avoir une épreuve qui va durer seulement 1h30, regroupant toutes les matières. Au lieu de 4 matières par QCM et de 1 matière écrite, ça a déjà comme inconvénient qu'on pense que le facteur chance va être beaucoup plus pris en compte. Et on pense que ça va vachement modifier les premiers classements qu'on a en fonction du premier semestre.
Quant à son amie Emma, elle souligne que l'année d'apprentissage a été très courte.
Au moment du confinement, les doyens voulaient continuer les cours sur Internet, mais pour l'égalité des chances, comme tout le monde n'a pas accès au Wi-Fi, à un bon Wi-Fi, le programme s'est arrêté au 13 mars.
Dans son communiqué, le doyen de la fac de médecine souligne qu'il a fallu réduire le nombre d'épreuves pour ne pas reporter au 30 août les résultats finaux. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Oui, mi-juin, ce sont des milliers d'étudiants en médecine qui vont plancher dans des hangars partout en France. Dans la série, ce qu'on ne pouvait pas faire hier, mais qu'on va pouvoir faire dès aujourd'hui, prendre des cours de conduite. Les auto-écoles rouvrent ce mercredi matin. Retourner à la plage, à La Baule ou à Pornichet, par exemple, et puis repartir en montagne accompagné. Les guides de haute montagne reprennent leur activité. Pas de festival d'Avignon cet été, on le sait, ni de in, ni de off. Une pause pour la grand-messe du théâtre et l'occasion de réfléchir à l'avenir pour le off géré par l'association Avignon Festival et Compagnie. Elle lance aujourd'hui une consultation publique pour le faire évoluer, ce festival off, et peut-être aussi lutter contre l'inflation galopante des spectacles, Stéphane Capron.
L'année dernière, 1592 spectacles se sont joués dans 139 lieux à Avignon. Le millier avait été dépassé au début des années 2000. Il y en avait 40 dans les années 70. Cette expansion a entraîné des dérives. Pierre Beffet, le président du OFF, estime que la crise sanitaire est un moment opportun pour réfléchir à l'avenir du festival.
On est dans un endroit où tout le monde trouve normal que les artistes soient pas payés, on est dans un endroit où tout le monde trouve normal que les prix soient multipliés par 5 pour se loger, que les théâtres augmentent incessamment les prix, que les artistes travaillent à la chaîne, et tout ça semble normal à tout le monde, alors qu'en fait, pour moi, c'est le pire exemple de la dérégulation, des conséquences du libéralisme.
Chaque année, beaucoup de compagnies laissent des plumes dans leur aventure à Avignon, elles s'endettent. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Pierre Beffet s'interroge.
Il y a beaucoup de spectacles qui sont super et puis il y en a qui sont quand même moins bien. Et je pense qu'il y a des moments, il faut aussi se poser la question de ce qu'on présente au public. Est-ce qu'on doit venir absolument à Avignon ? Est-ce qu'on doit absolument mettre sur scène tout ce qu'on a envie de dire ? Est-ce que tout a un sens ? Je ne sais pas. En tout cas, ces interrogations-là, elles se posent puisque, au final, ce sont les artistes qui en souffrent économiquement.
À partir d'aujourd'hui, deux questions simples sont posées aux compagnies. Quel festival idéal souhaitez-vous et quels sont les moyens pour y parvenir ? La synthèse sera dévoilée à la fin du mois de juillet.
Stéphane Capron, enfin, qu'est-ce qu'on a fait comme sport ? Pendant le confinement, on n'a jamais vu autant de joggeurs dans les villes, de sportifs dans les salons aussi. La question c'est, est-ce que ça va durer maintenant ? Bah, figurez-vous que quelques signes le laissent penser, Fanny Lechevestrier.
Une certitude, depuis lundi, cette grande enseigne de sport de Villeneuve-d'Ascq ne désemplit pas avec des clients comme Charlotte et Tanguy qui repartent avec chaussures de jogging et de vélo.
Comme je me suis mis au vélo, voilà.
Les miennes étaient usées, donc les cloques ça fait mal. Avec le confinement, en fait, j'en ai fait tous les jours, alors qu'avant, on ne prenait pas forcément le temps d'en faire. Et je pense qu'il faut continuer à prendre le temps de faire du sport.
Alors la France est-elle en train de se mettre au sport ? Loïc Le Gall, le directeur du site Decathlon Campus, constate en tout cas que des produits s'arrachent plus qu'avant.
Aujourd'hui, les ventes sont surtout ciblées sur le cycle et le fitness. Hier, ça représentait plus de 50% de nos ventes. On sent que les gens, ils ont vraiment envie de bouger en fait.
Avec de nouveaux pratiquants qui n'ont pas échappé non plus au club de sport, Régis Guillot est le responsable technique du Racing Club d'Arras, section athlétisme. Il y voit bien sûr des licenciés potentiels.
C'est vrai que moi, en tant qu'entraîneur de marche nordique, là, sur la période de confinement, j'ai pu voir beaucoup de personnes marcher avec des bâtons. Voilà, c'est un début.
Et l'espoir qu'à la rentrée, le sport devienne enfin un enjeu de santé publique avec, selon lui, une piste à développer, le sport en entreprise.
Une entreprise imposerait à ses salariés sur son temps de travail de pratiquer une heure, voire deux heures semaine du sport. Ça permettrait aux employés d'avoir une forme de bien-être.
En Suède, certaines sociétés l'ont rendu obligatoire il y a déjà quelques années.
Ouais, je vous laisse parce que je vais faire du vélo dans mon bureau.
Allez-y, ma chère Florence Paracuello. Aussi.